France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Cela fait 4 semaines maintenant que la rentrée scolaire a eu lieu pour quelque 12 millions d'élèves. Mais qu'en est-il pour les enfants en situation de handicap? Ont-ils trouvé leur place dans des établissements spécialisés ou en milieu ordinaire? Et si oui, pour combien d'heures par semaine et avec quel accompagnement? Ces questions sont loin d'être anodines. Il y a toujours des familles sans solution. Il y a quelques jours à Strasbourg, des mamans sont montées sur un échafaudage pour faire entendre leur désarroi. Alors ce soir, on va tenter de faire le point, d'avoir une vue d'ensemble de la situation, ce qui n'est pas forcément facile, on le verra. Le gouvernement lui affichait avant la rentrée de grandes ambitions et un objectif, l'inclusion des enfants en milieu ordinaire. Est-ce toujours la meilleure solution et les moyens sont-ils suffisants à la fois pour ceux qui accompagnent et pour les enseignants qui ont besoin de cet accompagnement? On posera la question à nos invités. Avec nous dans ce studio ce soir, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Bonsoir Sophie Cluzel.
Bonsoir.
Merci d'être là. À nos côtés également le député communiste de Seine-Maritime. Bonsoir Sébastien Jumel.
Bonsoir.
Je précise que vous êtes auteur d'un rapport sur la scolarisation des enfants handicapés. Et Sonia Ehinou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous faites partie de l'UNAPI, une association de familles. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à nos invités ou un témoignage à nous apporter, le standard attend vos appels.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette émission par un hommage, actualité oblige, car il n'est pas possible d'évoquer la question du handicap sans rendre hommage à l'action de Jacques Chirac dans ce domaine. L'ancien président qui nous a quittés hier avait fait de ce sujet une des grandes causes de son deuxième mandat, de son quinquennat. C'était une de ses priorités et ça mérite d'être rappelé, d'autant qu'il a fait adopter la loi de 2005 qui reste encore aujourd'hui une référence dans ce domaine. Nous sommes en ligne avec quelqu'un qui a travaillé avec lui sur ce sujet et sur bien d'autres dossiers. Bonsoir Philippe Bas.
Bonsoir.
Sénateur de la Manche. Vous avez été secrétaire général de l'Élysée pendant des années, aux côtés de Jacques Chirac. Vous avez été ministre des Affaires sociales, chargé des personnes handicapées. Dites-nous, c'est un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur, à Jacques Chirac?
Oui, c'est une sorte de fil d'Ariane de ses engagements, je dirais privés autant que publics. Vous vous souvenez peut-être que le jeune Jacques Chirac, il a 35 ans, avant même d'être élu député en 1967, crée une association pour accueillir les enfants handicapés mentaux profonds, parce qu'il n'y avait pas de solution pour eux à l'époque. Premier ministre en 1974, il crée l'AAH, allocation aux adultes handicapés, et puis les établissements médico-sociaux. Premier ministre de nouveau, en 1987, il crée la loi sur l'emploi des personnes handicapées. Et quand il est réélu président en 2002, il dit, dès l'interview traditionnelle du 14 juillet, on lui demande « Mais quel va être votre grand chantier ?» Et il dit « Mais moi, je ne veux pas construire de nouveaux bâtiments. Je vais avoir comme grand chantier de mon quinquennat le cancer, la sécurité routière pour faire reculer le nombre de morts sur les routes et la situation des personnes handicapées, le droit à la compensation du handicap. Il y a derrière ça une véritable philosophie, c'est que la société doit mettre chacun des siens en situation pour que l'égalité soit rétablie face à cette profonde injustice d'une certaine façon qu'est le handicap. Et puis il y a la loi de 2005, cette grande loi que j'ai eu l'honneur de mettre en œuvre au gouvernement. Donc
c'est une loi, Philippe Bas, qui reste, pardonnez-moi, c'est une loi qui reste aujourd'hui la référence.
Mais je le pense, ce n'est pas à moi de le dire, mais elle reformule au fond la philosophie de la politique de la France à l'égard de ses concitoyens, de nos concitoyens les plus vulnérables à cause du handicap. Elle les traite justement, parce que c'est une loi de citoyenneté, comme des citoyennes de plein exercice à part entière, à qui il faut permettre, justement en compensant par la solidarité autant qu'il est possible de le faire, parce qu'il ne faut pas être utopique non plus, mais autant qu'il est possible de le faire, le handicap est le sujet de ce soir, l'éducation, au fond, fait partie de l'idée qu'on a beaucoup de mal à développer l'emploi pour les personnes handicapées, à les maintenir dans l'emploi, mais une des difficultés vient du fait qu'ils n'ont pas accès aux qualifications, et donc il faut s'y prendre de bonne heure. Et la loi de 2005, elle dit deux choses. Elle dit l'école de la République doit s'ouvrir maintenant à la différence. C'est très difficile, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais il faut se remettre dans la situation de 2002, 2003, 2004, on a fait plus que doubler le nombre d'enfants en situation de handicap accueillis par l'école de la République.
Alors on va évidemment, en parler, Philippe Bas. Un très très grand merci d'avoir évoqué le rôle de Jacques Chirac par rapport à cette question. Grand merci à vous d'être intervenu ce soir sur l'antenne de France Inter. On va évidemment revenir sur le grand principe que pose cette loi, que le service public de l'éducation doit accueillir et veiller à l'inclusion de tous les enfants. Je précise, c'est un peu exceptionnel ce soir qu'on rendra également hommage à la fin de cette émission à l'action de Jacques Chirac en faveur de la sécurité routière, puisque grâce à ce travail, vous le disiez Philippe Bas, il a fait baisser le nombre de personnes décédées et puis le nombre de personnes handicapées dans ce pays.
France Inter, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel au standard de France Inter, c'est Astrid qui est en ligne. Bonsoir Astrid.
Bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute Astrid.
Je vais exposer la situation de ma fille qui a 5 ans, qui souffre d'un syndrome de Dravier et qui redouble sa moyenne section parce que
On a un petit problème de ligne, Astrid, malheureusement. On ne vous entend pas. Peut-être qu'on pourra vous reprendre tout à l'heure. Peut-être avons-nous un autre auditeur ou une autre auditrice que nous pourrions prendre en ligne. Gilles est à Rennes. Bonsoir, Gilles. On va voir si la ligne est meilleure pour vous. Oui, elle a l'air d'être meilleure.
Oui. Bonsoir, oui. Je vais vous expliquer ma situation assez rapidement. Donc, mon fils est en inclusion depuis un certain nombre d'années. On a fait ça très progressivement pour le faire grimper en capacité. Il est polyhandicapé, il a un syndrome génétique, entre autres. Il y a un trouble autistique et plus d'autres petites choses. Et avec un travail d'inclusion, justement, à l'école, on a réussi à le faire arriver à un niveau tout à fait convenable par rapport à ses camarades, même s'il est un peu en décalage en termes d'années. Mais par contre, il est totalement intégré. Jusqu'à présent, il avait ce qu'on appelle une AVS personnelle, à 100% en fait, individuelle. Et une mesure, apparemment, est tombée en septembre, qui a transformé cette AVS individuelle en AVS mutualisée. Et alors, la conséquence, c'est pas compliqué pour nous. Ewan, donc après 15 jours d'école, il s'est retrouvé avec, enfin mon fils, avec son AVS retiré brutalement, du jour au lendemain, sans même qu'il ait le temps de lui dire au revoir, pour se retrouver après avec une AVS mutualisée qui intervenait déjà sur deux écoles. Donc avec un emploi du temps pour mon fils, équivalent à un jour, un quart par semaine.
Situation bien compliquée, Gilles.
Bien compliquée. Et alors pour pallier à ça et pour aider mon fils, en fait notre fils, c'est que moi j'interviens finalement comme l'AVS, tous les jours, à l'école, avec l'accord de l'équipe enseignante. Donc c'est moi finalement qui suis obligé de suppléer à l'AVS qui a été retirée brutalement.
Merci Gilles pour ce témoignage. Sophie Cluzel, comment se fait-il qu'on puisse retirer un accompagnateur, une accompagnatrice comme ça?
Normalement, on ne peut pas retirer une accompagnatrice. Je voudrais dire à Gilles que, d'après ce qu'il nous dit, parce que je ne connais pas Ewan, il a un besoin soutenu et continu d'accompagnement. Et c'est bien ça qui détermine justement un accompagnement individualisé. Donc là, il faut revoir, en effet, la problématique d'Ewan. C'est pas normal, ce qui est arrivé. Je rappelle que c'est la maison du handicap donc qui détermine les besoins et qui accorde les accompagnants. Donc là, je pense qu'il faut en effet revoir cet accompagnement, cet accord, pour permettre un accompagnement soutenu et continu. Parce qu'on voit bien que là, l'accompagnement individuel, il est indispensable pour cet enfant. Donc, je pense qu'il faut revoir cela. Donc, il y a un lieu pour ça. Ça s'appelle l'équipe éducative. Donc, je conseille à Gilles, si je peux me permettre de l'appeler ainsi, de demander cette équipe éducative immédiatement avec l'inspecteur et puis de voir pourquoi. Parce que ce n'est pas normal, en effet. Quand un enfant a besoin d'un accompagnement soutenu et continu, il faut pouvoir le respecter.
Sonia et Inou de l'UNAPI, vous avez, je crois, lancé un appel à témoignages auprès des adhérents de votre association, et pas que, au-delà. Des témoignages comme celui de Gilles, vous en avez eu d'autres?
Des témoignages comme celui de Gilles, on en a beaucoup. La problématique, c'est de savoir... Alors, concernant un des dispositifs, les AESH, c'est une réponse de scolarisation parmi les autres parcours de scolarisation. Pour parler des AESH, ce qui est très
expliquez
problématique
AESH,
et qui ressort,
ça veut dire, parce que...
accompagnant éducatif... Voilà. Des élèves
c'est
en situation
le nouveau
de
nom
handicap.
Des AVS,
exactement. Ouais. Et l'accompagnement, le type d'accompagnement est calqué sur la présence de l'accompagnant, ce qui fait qu'il y a des familles qui sont obligées de pallier à ça. Soit l'enfant rentre à domicile, soit l'enfant est accompagné par son parent. Ça peut arriver. Il y a beaucoup de témoignages. En tout cas, moi, on est là pour faire remonter la parole des parents sur la plateforme marentrée.org. Et il y a une problématique sur l'articulation et la coordination de ces accompagnants.
Sébastien Jumel, de votre côté en Seine-Maritime ou au-delà, à l'Assemblée, vous avez eu des retours par le biais des citoyens ?
C'est ces témoignages qui avaient déclenché la commission d'enquête que j'ai engagée en 2018. Cette désespérance des parents, prendre en compte derrière le fait que de l'inclusion scolaire, c'est qu'il y a de l'humain, il y a des mômes, il y a des parents qui sont confrontés au parcours du combattant. Et notre rôle, notre responsabilité, c'est de faire en sorte qu'on fluidifie leur parcours, qu'on humanise leur parcours, qu'on simplifie leur parcours. Derrière la question de Gilles, il y a une question sur laquelle il faudra qu'on soit attentif. Le gouvernement a mis en place un accompagnement mutualisé à travers ce qu'on appelle les pôles d'inclusion d'accompagnement locaux, les PIAL. Un sigle barbare, mais en gros, on met une équipe sur un lieu pour prendre en compte d'une manière cohérente les besoins d'accompagnement. Mais ces PIAL n'ont pas vocation à remettre en cause le droit individuel à accompagnement. Si ça s'est posé pour l'enfant de Gilles, ce n'est pas normal et donc il faut corriger la trajectoire. Parce que l'objet des PIAL, c'est de faire du plus, d'améliorer l'accompagnement mutualisé, y compris pour être plus réactif, mais en aucun cas faire en sorte d'être accompagné à temps partiel. Parce que la seule autorité qui est capable de décider de combien d'heures on a besoin et de quel est le niveau de handicap de l'enfant, c'est la MDPH.
Exactement, c'est la maison du handicap la maison départementale des personnes handicapées. C'est elle qui détient l'évaluation. Mais pour reprendre pour Gilles aussi une solution, c'est que ce qu'il faut absolument voir, c'est que Gilles, son enfant, il a un projet de scolarisation. Ça, c'est très important. C'est garant pour les familles d'avoir un projet de scolarisation qui détermine justement les besoins des WAN. Donc, c'est à travers ce projet de scolarisation qu'il faut se remettre autour de la table. Il y a des solutions possibles. Mais je voudrais dire quand même que cette rentrée, elle s'est quand même bien passée parce que nous avons près de 430 000 élèves qui sont scolarisés, dont 340 000 à l'école ordinaire.
Et vous savez combien il y en a qui ne sont pas scolarisés, faute d'accompagnants ?
Plus 20 000 d'élèves qui sont scolarisés. Aujourd'hui, sur la moitié des élèves qui sont scolarisés, c'est-à-dire sur les 340 000, la moitié ont besoin d'un accompagnement. Je tiens à le préciser parce que beaucoup d'enfants n'ont pas besoin d'accompagnement.
Est-ce que vous savez, Sophie Cluzel, combien il y en a qui ne sont pas accompagnés? Attends, parce que les associations parlent de plusieurs millions.
Je finis juste pour bien expliquer aux auditeurs. La moitié d'élèves n'ont pas besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'aménagement pédagogique. Ils ont besoin d'un matériel adapté. Ceux qui ont besoin d'être accompagnés, il faut qu'ils soient accompagnés de façon pérenne et professionnelle. Aujourd'hui, plus aucun accompagnant est recruté en contrat aidé. C'est colossal, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de rupture d'accompagnement. Aujourd'hui, à la rentrée, 96% des enfants qui avaient besoin d'un accompagnement sont accompagnés. On a encore des problèmes de recrutement, c'est indéniable, je ne le nie pas. Et c'est pour ça que les cellules d'écoute départementales sont toujours actives. C'est pour ça que nous sommes en mode action sur le terrain, avec Jean-Michel Blanquer, pour pouvoir aller justement régler encore les problèmes de recrutement.
Sébastien Jumel, je vous promets que je vous donne la parole tout de suite, mais il se trouve que nous avons Anne qui fait partie d'un collectif d'AESH, AESH-AVS en action, qui est en ligne. Bonsoir Anne.
Oui, bonsoir.
Alors, quelle est la situation pour vous en cette rentrée pour les AESH et les AVS? Est-ce qu'il y a une amélioration ou pas?
Alors, de notre côté, pour être tout à fait honnête et direct, la rentrée est complètement chaotique. On a beaucoup d'AESH qui travaillent encore sans contrat aujourd'hui, qui n'ont pas été payés ou qui ont eu des bouts de paye, qui sont mutualisés massivement au sein des PIAL. PIAL qui fleurissent en fait à la va-vite, sans information sur les secteurs pour les acteurs et de façon complètement désorganisée pour le moment. Les chefs d'établissement eux-mêmes n'y comprennent pas grand-chose et ne savent pas renseigner les AESH qui sont toujours les derniers informés, voire pas informés du tout. Les AESH mutualisés subissent depuis le début de cette rentrée, donc quelque chose qu'on avait moins connu jusqu'à présent, c'est-à-dire des changements d'emploi du temps et de lieu d'affectation incessants, ce qui rend un cumul avec un autre emploi complètement impossible, puisqu'on ne sait pas où on sera la semaine suivante. Donc, si on veut faire même du périscolaire ou cumuler avec de la cantine, comme il était préconisé, c'est au niveau organisation, vous comprenez bien que ça rend les choses très difficiles. Cette mutualisation et ces changements incessants aussi ne nous permet pas de pouvoir accompagner de manière qualitative en fait les élèves en situation de handicap. On va jusqu'à 8 enfants pour le primaire, hein, pour certains collègues. Et dans le second degré, on passe à 10. Enfin, en ce moment, la situation est assez terrible. Beaucoup d'AESH qui aiment leur métier craquent, ils se mettent en arrêt, ils démissionnent parce qu'ils n'en peuvent plus de cette misère financière et morale, en fait. On est mis sous pression croissante.
Juste une petite précision, Anne, au niveau de la rémunération. Vous nous donnez une petite idée de ce que ça représente. C'est des contrats de quoi? D'une vingtaine d'heures par semaine?
Alors, non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit qu'un AESH est à 24 heures par semaine, il fait en plus une enveloppe d'heures invisible. Je vous donne mon exemple. Hein. Je suis, moi, à 26 heures par semaine sur une quotité de 66%. Je suis AESH CDI en exercice depuis 12 ans. Je gagne 820 euros par mois. Voilà, pour une présence moyenne par semaine à l'école de 30 à 31 heures.
Merci Anne, j'aurais pu vous garder plus longtemps en ligne, mais il se trouve qu'il y a énormément d'appels ce soir au standard de France Inter. Sébastien Jumel, cette question de la condition des AESH, est-ce que c'est une partie du problème?
Le débat qu'on va avoir ce soir démontre quoi? Qu'il y a eu un saut quantitatif avec la loi de 2005 et qu'aujourd'hui il nous faut procéder à un saut qualitatif. Pour la prise en charge des enfants, pour l'humanisation et la réaction dans la prise en charge, et puis pour l'accompagnement de ceux qui accueillent les enfants, les enseignants qui doivent être formés et les AESH qui doivent être sécurisés. Le témoignage est un témoignage réel, j'aurai l'occasion de le dire à Monsieur le Ministre le 8 octobre prochain. Il y a eu un cap de fixé qui va dans le bon sens. Passer à des contrats de 3 ans, une circulaire qui dit qu'il faut prendre en compte les 52 semaines, prévoir des heures de formation, c'est très bien. Sauf que ce que je constate, c'est que selon les rectorats, on n'applique pas cette circulaire du ministre, ce qui n'est évidemment pas acceptable, que l'éducation nationale a du mal à se mettre en mouvement et qu'il y a effectivement aujourd'hui des AESH qui ont travaillé tout le mois sans contrat et qui, et c'est souvent des femmes qui élèvent leurs enfants seuls, monoparentales, on a des stats hein, sur les caractéristiques des AESH, des salariés précaires qui s'occupent des enfants. Notez avec moi qu'on est dans un pays où quand on s'occupe des gens, aide à domicile, aide soignante, ATSEM dans les écoles ou AESH, on a le sentiment que ce ne sont pas des métiers reconnus. Il y a un besoin de reconnaissance, il y a un besoin de formation, il y a un besoin de sécuriser. Le gouvernement a, je le dis, donné un cap intéressant. Dans mon rapport, je dis qu'il faut aller vers une CDIsation et pourquoi pas demain vers un statut véritable des intervenants en milieu scolaire. Mais il y a encore des marges de progression énormes. Et moi, je crois que ces situations de salariés qui travaillent sans contrat et qui sont, y compris, pas payés à l'heure où je vous parle, doivent être réglées en lien des rectorats avec les préfets et les trésoreries départementales, parce qu'on ne peut pas, en France, s'occuper d'enfants en situation de handicap et ne pas être payés. La ministre, je crois, est d'accord avec moi là-dessus, mais il faut agir.
Sophie Cluzel.
Alors, ce témoignage, bien sûr, je ne le nie pas, mais il ne représente pas la majorité quand même des accompagnants, parce que justement nous avons déprécarisé les AESH en passant de contrat aidé à contrat de CDD de 3 ans renouvelable une fois. Le ministre l'a dit aujourd'hui que 2% des AESH sont à temps plein, 35 heures. Son objectif, justement avec l'organisation au plus près des écoles, collèges et lycées, qui est un plus, l'ensemble des chefs d'établissement le disent, va lui permettre de passer à 35% ces contrats à temps plein. Donc une déprécarisation financière également. Moi, je dis que c'est un vrai beau métier. C'est un vrai beau métier, nous en avons besoin. Le ministre le dit aussi haut et fort. Et justement, nous sommes en train de changer la chose. Donc, c'est ce grand service public de l'école inclusive, avec une vraie gestion des ressources humaines au plus près. Et chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, je rappelle que la cellule d'écoute départementale, elle est aussi faite pour les accompagnants, les enseignants. Nous avons eu plus de 11 000 appels qui ont été solutionnés. Un quart d'entre eux représente des questions des accompagnants. Donc on voyait bien qu'il y avait ce vrai besoin d'avoir cette porte d'entrée. C'est ainsi que c'est mis en place. Donc vraiment, appelons, si encore des familles, si encore des accompagnants qui ont des doutes, il faut qu'ils appellent cette cellule d'écoute.
Sonia et Inou de l'UNAPI, il y a effectivement une amélioration avec cette cellule qui répond aux...
Il y a une amélioration dans le sens où il y a beaucoup d'orientations qui sont mises en place. D'ailleurs, merci aussi au député Monsieur Jumel d'avoir pointé du doigt un certain nombre de choses qu'il va falloir mettre en œuvre et travailler ensemble.
Qui sont déjà beaucoup mis en œuvre. On a fait le point justement avec
sûr.
Le député.
Je finis juste.
On va laisser finir. Alors,
après, ce qui est important, c'est quand même qu'il faut écouter les problématiques quand même de ces personnes-là, de ces familles. Sur la plateforme marentrée.org, on pointe quand même un certain nombre de difficultés. Quand on parle d'un parcours de scolarisation, il doit être fait dans les bonnes conditions pour garantir un parcours tout au long de la vie et quel que soit le lieu de scolarisation. Donc là, c'est vrai qu'effectivement, on parle des accompagnants de la scolarisation, mais il faut aussi parler des élèves qui sont dans des classes un peu plus spécialisées, telles que les unités localisées d'inclusion.
Les ULIS.
Les ULIS. Mais il faut aussi parler des enfants qui sont scolarisés et qui dépendent d'un accompagnement très renforcé par les établissements médico-sociaux, qui sont en unité d'enseignement ou au sein de l'établissement ou dans un milieu ordinaire. Et il faut que tous ces milieux-là garantissent un parcours de scolarisation à tous les enfants. Et il faut absolument que tous les acteurs qui sont en lien avec la scolarisation puissent intervenir et se mettre autour de la table pour mettre les moyens en face.
Alors je voudrais qu'on entende justement, puisqu'on parle de tous les acteurs dans ce domaine, une enseignante, Anne-Claire, elle est dans l'Aveyron et elle est au bout du fil. Bonsoir Anne-Claire.
Bonsoir. Oui, je suis enseignante en maternelle depuis plus de 33 ans et je suis moi-même mère d'une jeune femme handicapée. Donc, je ne peux qu'approuver la loi sur le handicap de 2005. Je voulais dire que l'enseignant a évidemment envie d'être bienveillant et envie de porter les valeurs de solidarité et d'inclusion dans sa classe, c'est bien évident. Mais que malheureusement, on est bien souvent amené à gérer des situations extrêmement difficiles avec un enfant en situation de handicap dans sa classe. Et on est amené parfois à ne pas pouvoir respecter le rythme spécifique et les besoins spécifiques de cet enfant qui parfois a des troubles de la relation, des troubles du comportement. Et nous sommes nous-mêmes à devoir gérer une classe de 30 enfants et donc on est bien souvent en grande difficulté avec en plus un sentiment de culpabilité parce qu'on se dit qu'on ne fait pas bien notre travail et qu'on a envie de bien mieux faire mais ça n'est humainement pas possible.
Merci beaucoup Anne-Claire pour ce témoignage. Voilà. Sébastien Jumel, ce désarroi des enseignants dans ce genre de situation, c'est quelque chose qui revient souvent ?
Oui, c'est un témoignage que nous avons entendu par tous les enseignants que nous avons auditionnés. Et moi, ça m'a conduit à formuler plusieurs propositions concrètes. D'abord, l'ambition d'un véritable plan de formation pour les enseignants.
Donc l'éducation nationale.
Bien sûr, ceux qui démarrent, les jeunes enseignants, mais aussi ceux qui sont en fonction, parce qu'ils sont confrontés à prendre en charge des enfants en situation de handicap sans avoir les outils de compréhension, de compétences, d'expertise pour les prendre en charge. Donc un véritable plan de formation qui doit toucher les enseignants, les intervenants, y compris les personnels des collectivités territoriales. Deuxième élément, dans ce qu'elle dit... Je mesure que lorsqu'on accueille des enfants en situation de handicap dans une classe, c'est pas un poids, c'est pas une charge, c'est même une chance. Moi, je vois quand ma fille fréquente des enfants en situation de handicap, elle en sort enrichie. Par contre, il est clair que accueillir des enfants en situation de handicap dans des classes à effectifs à 30, ça ne permet pas une pédagogie différenciée, ça ne permet pas de prendre en compte les besoins particuliers des enfants, qu'ils soient d'ailleurs en situation de handicap ou non. Je formule la proposition que quand on fait des effectifs de classe, quand on bâtit l'écart scolaire, eh ben, il y a moins d'enfants dans la classe quand on accueille des enfants en situation de handicap pour permettre tout simplement à l'enseignant de faire bien son boulot. Et troisième élément qui rejoint, je crois, une préoccupation de l'UNAPI, des associations de parents, c'est de considérer que le parcours d'un enfant en situation de handicap quelquefois nécessite des passerelles, de la souplesse. On peut être dans un institut de jeunes sourds, pour être pris en charge d'une manière particulière et ensuite revenir en milieu ordinaire. On peut avoir besoin d'être pris en charge par un IME lorsque l'âge, le handicap, la crise peut-être liée à tel ou tel handicap le nécessite et ensuite être accompagné correctement en milieu ordinaire. C'est cette souplesse, c'est cette passerelle que dans le rapport nous avons voulu souligner parce que, je le dis, il y a un partage de points de vue sur la nécessité de faire une révolution pour l'école inclusive. Mais il faut que ça se fasse en concertation avec les acteurs, avec toujours les parents, le libre choix des parents, l'écoute des parents qui ont une expertise extraordinaire qu'il faut prendre en compte, et puis évidemment, notre grille de lecture, et là, autour de la table, on est d'accord là-dessus, l'intérêt de l'enfant, l'intérêt suprême de l'enfant qui doit être pris en charge.
Sophie Cluzel.
Oui, pour répondre déjà aux députés, on a longuement échangé là-dessus. En effet, la formation, c'est le maître mot. Et je voudrais dire à cette enseignante qu'elle n'est pas seule, que d'abord il y a un outil qui a été bâti qui s'appelle CAP vers l'école inclusive, qui est une plateforme numérique de ressources pour les adaptations. Déjà qu'il n'y ait pas une errance des enseignants à trouver la bonne solution. Avec des choses très simples qui ont été bâties en concertation avec les associations et qui est disponible pour les enseignants, pour les accompagnants. Deuxième chose sur le partage. C'est un partage de responsabilités. C'est bien pour ça que cette grande révolution, elle a commencé à se faire. Parce que le médico-social, c'est-à-dire les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les psychologues et les parents, dont je suis aussi, savent bien de quoi je parle. Tous ces rééducateurs peuvent rentrer dans l'école parce que c'est une responsabilité partagée. Cette révolution, elle est déjà en marche là-dessus, sur cette coopération. Et je tiens à saluer vraiment le travail des associations gestionnaires. Parce que nous avons déjà 60 équipes mobiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? 60 équipes mobiles avec un éducateur spé, avec un psychologue qui rentre et qui vient aider l'enseignant qui se trouve un peu démuni, par exemple, quand un enfant n'est pas encore avec tout son projet sur le handicap. C'est comme ça qu'on travaille en coopération, en formation et vraiment en simplifiant le parcours des parents. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'expertise parentale, elle est remarquable. Il faut mieux l'écouter et surtout soulager la charge administrative pour les parents. C'est pour ça que j'ai simplifié.
Vous parliez, Sophie Cluzel, des psychomotriciennes. Il se trouve qu'on en a une en ligne qui nous appelle ce soir. Elle s'appelle Claire. Bonsoir. Vous êtes à Grenoble, c'est ça ?
Non, je suis en Bretagne.
Ah bon, pardon. Alors écoutez, va pour la Bretagne. On prend aussi.
Oui, bonsoir. Alors moi, je travaille en Action libérale et à moitié en IME. Depuis plusieurs années, depuis 20 ans. En fait, ce que j'observe, c'est que l'inclusion à tout prix fait aussi des dégâts. C'est-à-dire que je vois des enfants qui, petit à petit, ont la tête sous l'eau, ne sont plus bien dans le milieu dit ordinaire parce qu'ils ont des parcours de santé, des parcours de vie sociale compliqués. Et en fait, depuis 5 ans, je travaille dans une IME et j'ai découvert aussi la richesse d'une équipe pluridisciplinaire où ces enfants arrivent et tout d'un coup, au bout du rouleau de ces parcours dans le milieu ordinaire, se retrouvent portés, aidés, accompagnés à leur rythme chaque jour. Et voilà, et je crie un tout petit peu je voudrais vraiment alerter en disant oui pour l'inclusion, mais il y a aussi des enfants qui ont des besoins institutionnels où vraiment les équipes sont là, bienveillantes. Et avec vraiment un regard très, très, très proche de chaque besoin d'enfant qu'on peut pas forcément faire dans le milieu ordinaire. Parce que moi, je le vois quand je suis en libéral, je suis plein d'enfants qui sont aussi au milieu ordinaire. Et dans certains cas, c'est vraiment très compliqué.
Merci.
Et aller dans l'école, oui, c'est très bien pour les professionnels, mais ça veut dire voir peut-être 4-5 enfants dans la journée. On est toute la journée auprès de ces enfants-là, et là, on en voit beaucoup plus avec une qualité relationnelle plus efficace.
Merci beaucoup, Claire. Sébastien Jumel, vous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas compartimenter Sonia et nous de l'UNAPI. Vous dites ça aussi, forcément l'école inclusive à tout prix. Il faut qu'il y ait le choix, il faut qu'il y ait différentes possibilités.
Il faut qu'il y ait des possibilités qui soient adaptées aux besoins de l'enfant. L'école inclusive, c'est quoi ? C'est avoir un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu pour développer les compétences sociales, un lieu ressources. Et après, on va puiser en fonction des compétences de l'enfant et des appétences, dans le milieu dit ordinaire, des choses, ça peut être des loisirs, ça peut être, mais c'est vraiment en fonction du parcours.
Après, il faut qu'il y ait des établissements aussi disponibles.
Hein. Alors, pour avoir une vraie dynamique inclusive, il faut que tout l'environnement se mette
au diapason
en fonction du besoin de l'enfant. Il faut que tous les acteurs soient autour de la table et vraiment mettre les moyens. On est tous responsables, quelles que soient les personnes, hein, les parents d'enfants ordinaires ou les parents d'enfants en situation de handicap, comme les collectivités, les MDPH, les agences régionales de santé. Nous sommes tous responsables du bien-être de tout le monde, de chacun d'entre nous.
C'était peut-être important, Sophie Cluzel, de le rappeler, parce qu'on a l'impression que dans le discours du gouvernement, c'est l'école ordinaire,
l'école
inclusive, à tout prix, que
ça. Non, pas du tout. C'est de l'école partout. D'abord, à partir du choix de vie des parents. Ça, je tiens à le dire encore et surtout. Mais
de
ce
la
que
famille.
J'observe... Oui, des parents, enfin des parents de
la famille.
Ce que j'observe surtout, c'est que quand, par exemple, on a l'expertise du médico-social dans l'école et vice-versa, qu'on a des enseignants dans le médico-social... C'est comme ça qu'on travaille cette école inclusive. L'école inclusive, ça ne veut pas dire forcément que les murs de l'école. Mais par exemple, nous créons des classes spécialisées pour l'autisme. 162 classes spécialisées pour l'autisme en maternelle et en élémentaire. Qu'est-ce que m'ont dit les parents quand j'étais à Albi, à Amiens, sur le terrain pour aller les voir ? On pose nos valises. Notre enfant, comme notre reste de la famille, va à l'école de son quartier. Tout se passe en coopération avec tous les professionnels dans l'école. Et moi, les mamans, elles m'ont dit, j'ai pu reprendre du travail. Il part avec ses frères et sœurs dans l'école de son quartier. C'est un vrai soulagement et toute cette coopération, elle se fait dans les murs.
Ça, on est d'accord que quand c'est possible, tout le monde préfère cette
solution.
On a
la chance en France d'avoir une palette de ressources formidables. On a les établissements spécialisés, on a l'école, on a les classes spécialisées dans l'école, on a les passerelles.
Allez,
on
est en train vraiment
je vous presse un petit peu parce que le grand Sébastien Jumel,
juste un mot,
cette grande offre.
Vous savez, j'ai fait en sorte que ce rapport soit voté à l'unanimité parce qu'à l'instar de la loi de 2005, je voulais pas de posture politicienne et un consensus pour faire avancer la cause du handicap. Mais on a tout de même des points de vigilance et des lignes de partage. Par exemple, le tout inclusif à tout prix peut être dangereux. Il peut être d'ailleurs un effet d'aubaine pour retirer des moyens aux établissements spécialisés. Et c'est un sujet sur lequel il nous faut être...
Non, aucun moyen n'est retiré aux établissements spécialisés.
Je ne fais pas de procès d'intention, je dis que c'est un point de vigilance. Deuxième élément, on a un consensus, ça se voit. Mmh. Bon. Moi, je serai attentif à ce que ensuite les moyens viennent. Par exemple, une psychomotricienne, la question de la détection précoce des enfants, remboursée jusqu'à l'âge de 7 ans. Il va falloir qu'on pousse jusqu'à 12 ans, parce que, notamment pour les enfants 10, c'est un besoin identifié par les associations. Et donc, vous voyez, les propositions que j'ai formulées font consensus. Maintenant, il va falloir qu'on s'en donne les moyens pour le saut qualitatif qu'on appelle de nos voeux.
Voilà, on repart au standard de France Inter. Cette fois, on a bien Marie de Grenoble. Voilà, on vous a trouvé, Marie. On vous écoute.
Bonsoir. Merci beaucoup. Je rebondis sur la question des moyens évoquée par Monsieur Jumel. L'association Toupie ainsi que l'association Info Droit Handicap et Autisme France ont fait une enquête qu'elles font déjà depuis 3 ans à la rentrée pour savoir combien d'enfants en situation de handicap ont leur AESH le jour de la rentrée et dans les 2 semaines qui suivent. Leurs estimations cette année sont qu'il reste entre 11 000 et 13 000 enfants qui n'ont pas leur AVS actuellement. C'est un chiffre qui est à peu près stable par rapport aux années précédentes et qui est cohérent aussi avec les conclusions de la commission d'enquête sur l'inclusion des élèves handicapés. Donc
c'est beaucoup. Voilà. Hein, c'est beaucoup. Marie, je vous presse un petit peu parce que on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Entre 11 000 et 13 000 enfants.
C'est 8 000 aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 8 000. C'est les 96% dont je vous ai parlé. Hein.
C'est beaucoup, 8 000.
Mais c'est 8 000 de trop, bien sûr. Mais c'est moitié moins que l'an dernier. L'an dernier, nous étions à 16 000 enfants. Et je tiens à dire que c'est un flux continu. Nous avons encore des accords d'accompagnants qui arrivent aujourd'hui. L'éducation nationale, c'est un flux continu de besoins. Donc je tiens quand même à saluer vraiment le résultat que l'éducation nationale a pu mettre en place pour cette rentrée scolaire. Il faut le dire, les enseignants, les accompagnants ont fait un boulot remarquable. 20 000 élèves de plus quand même scolarisés cette année.
Il y a eu des efforts. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'outils de pilotage et de mesures statistiques de la vérité des chiffres sur les enfants non scolarisés, sur le nombre d'heures dispensées pour les enfants scolarisés en établissement spécialisé ou en milieu ordinaire, sur le nombre de familles qu'on estime à 1300 qui sont obligées d'aller en Belgique pour trouver des solutions. Donc il y a besoin, c'est la première proposition du rapport, d'un pilotage public cohérent, statistique, partagé, pour savoir d'où on part, pour savoir où on arrive. Alors ça a progressé, le rapport a permis que ça progresse, le gouvernement se dote d'outils, mais il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là.
Monsieur le député, je reviens juste par rapport...
Sonia et Inou, on va terminer, parce qu'après je voudrais qu'on prenne la Ligue contre la violence routière, ça me paraît important d'en dire un petit mot.
Je reviens juste, alors d'ailleurs j'ai été au courant aussi de l'enquête de
l'association
Toupie avec ses partenaires, de la même ordre que notre... Alors c'est juste pour remonter la parole des parents, ce qui est vraiment très difficile pour les parents quand on dit c'est moitié mieux que l'année dernière. J'ai envie de dire pour tous ces parents qui sont en peine et dans des situations catastrophiques, il faut quand même en tenir compte et justement trouver des solutions pour qu'il y ait 0%
encore tous ensemble,
de personnes comme ça, quand même être obligé de porter plainte ou de monter sur des grues ou de se suicider parfois, c'est vraiment
c'est
très difficile.
C'est le premier motif de saisine des défenseurs des droits.
Exactement.
Les discriminations par rapport au handicap chez les enfants. Un très grand merci. Merci. Merci à tous les trois d'être venus. Sophie Cluzel, je pense que tout le monde est d'accord.
Je voudrais quand même rendre hommage à Jacques Chirac, excusez-moi, oui. Parce qu'on est vraiment, je pense, tous les héritiers de Jacques Chirac dans cette grande loi qu'il a faite. C'est cette loi qui s'applique pour tous. Quand je l'ai rencontré, parce qu'à ce moment-là, j'étais présidente d'association, j'ai participé à la construction de cette loi de 2005, puisque j'étais autour de la table avec Philippe Bas, avec toutes les personnes. Il nous a écoutés, nous les parents. Et là, je reprends ma casquette de parent.
Je me joins à cet hommage, mais le meilleur hommage, c'est d'écrire un acte 2 de la loi de 2005.
C'est
de mettre en application.
Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois, nous avons vraiment besoin d'accélérer tous ensemble
merci
l'exécution.
Merci à tous les trois. Sophie Cluzel, Sébastien Jumel, Sonia et nous. Un grand merci d'être venus ce soir. Je pense que vous avez répondu à pas mal des questions qui se posaient ce soir. Je vous avais promis qu'on terminerait avec effectivement un hommage à Jacques Chirac, compte tenu de son action en faveur du handicap, mais aussi en faveur de la sécurité routière. Chantal Perrichon, vous êtes la présidente de la Ligue contre la violence routière. Merci d'être avec nous.
Bonsoir.
On peut dire qu'il y a eu une vraie volonté dans ce domaine-là aussi et des résultats.
Il y a eu une vraie volonté et des résultats. C'est un homme qui a osé parler de barbarie sur la route. C'est le premier président qui, en France, a mis un terme à l'amnistie présidentielle, c'est-à-dire la fin de cette amnistie pour les infractions routières. Il faut rappeler qu'à chaque élection présidentielle, le président nous coûtait entre 500 et 600 vies, ce qui était un scandale, bien évidemment. Il a osé, effectivement, dire au mondial de l'automobile, devant les constructeurs, « Je condamne la vitesse comme argument de vente » chez les constructeurs. Et ensuite, il s'est entouré de collaborateurs qui étaient investis de sa confiance parce que c'était au plus haut niveau de l'État que la lutte contre la violence routière avait été décrétée. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais fléchi, jamais reculé dès qu'il y a eu la mise en place des radars, de ces contrôles automatiques. En plus, il y avait cette faible tolérance pour les petits excès de vitesse, ce qui a fait baisser bien évidemment la vitesse sur l'ensemble du réseau en France, et nous avons bénéficié d'une diminution très rapide de l'accidentalité avant même la mise en place du premier radar, car tout le monde parlait de la sécurité routière qui était devenue un enjeu important.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut savoir prendre des mesures parfois impopulaires, il faut faire preuve de courage en politique, c'est ça que ça veut dire ?
Exactement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se retrancher devant le maître mot de ceux qui sont souvent pleutres pour prendre de bonnes décisions et qui parlent d'acceptabilité. Il faut aller droit devant. À partir du moment où les décisions sont appuyées sur la connaissance des experts, il faut effectivement prendre les bonnes décisions. Et un point très important, à l'époque, son ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, avait fait passer une circulaire contre les indulgences. Il faut rappeler que dans notre pays qui se dit civilisé, 50% des PV n'étaient pas payés, c'est-à-dire le domaine de l'indulgence pour tous les notables. Aucune égalité entre les citoyens. C'est dire si ça a été vraiment une révolution importante. Nous lui devons des dizaines de milliers de vies qui ont été épargnées. Et vous parliez du handicap tout à l'heure. Grâce à Jacques Chirac, il y a des dizaines de milliers de familles qui ne vivent pas avec une personne lourdement handicapée. Je parle de tétraplégie, de paraplégie, de traumatisé crânien, car notre société
Merci,
nous
Chantal
abandonne
Pierre.
Ensuite.
Merci, il fallait le dire. Merci mille fois pour cet hommage à Jacques Chirac ce soir. Merci à tous d'avoir participé Merci. À ce téléphone sonne, à ceux qui nous ont appelés dans quelques secondes. Julia Foyce après les infos de 20h.
Quel programme question, ce soir, Julia ? Le féminisme est-il devenu cool depuis MeToo ?